Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série très importante. Quelle est la suprême intention? Quelle est la suprême intention? Le titre pour aujourd'hui sera « Vivre de la vie d'un autre ». Vivre de la vie d'un autre. Ayant observé les choses avec les yeux du Père, nous pouvons voir que, dès avant la fondation du monde, c'était bien son dessein de partager sa vie avec les hommes. Ce n'est pas à cause du péché de l'homme, c'est avant même qu'il eût péché que Dieu résolut, qu'il a résolu quand les temps seraient accomplis, de rendre l'homme par son Fils bien-aimé participant de sa vie. Alors, si Adam avait obéi à Dieu, il aurait eu les yeux ouverts pour apprécier l'arbre de vie, recevant ainsi la faculté de devenir fils, puis se nourrissant de cet arbre qui représentait Christ, il aurait avancé sur la voie par excellence de l'accomplissement de l'intention suprême de Dieu. Et maintenant, malgré la chute d'Adam, Dieu a pris ses mesures pour que Christ devienne l'arbre perpétuel de la vie. Ainsi, ce sera accompli le plan originel de Dieu pour l'homme, que de vivre de la vie d'un autre. Nous voici donc enfin parvenus à la voie céleste où l'homme peut commencer à réaliser la suprême intention de Dieu. Vous remarquerez que Dieu a élevé l'homme déchu au niveau de la vie de résurrection et nous avons fait une distinction entre le chemin qui monte, lequel implique l'œuvre divine de la rédemption, et la voie céleste sur laquelle nous allons de l'avant et portons du fruit pour Dieu. Trop nombreux, hélas, sont les chrétiens qui n'ont jamais compris que Dieu ne se sert du sang et de la croix que dans un sens curatif et dans le seul but de nous amener à la vie. Par la croix, il a entrepris de rompre les attaches qui nous liaient à nos vieilles ressources naturelles pour nous faire vivre de la vie d'un autre. Bien entendu, du point de vue de Dieu, l'homme a été en possession de la vie divine dès l'instant même où il est né d'en haut. Mais de même que Dieu nous a révélé naguère autrefois la valeur du sang pour la réconciliation et le pardon, ou la valeur de notre union avec Christ dans sa mort pour notre délivrance, ainsi il nous faut une révélation pour comprendre que nous avons été coupés de la vieille source de vie naturelle. Nous devons maintenant vivre et agir par la vie et par les ressources d'un autre. Je dois franchement admettre que pendant 20 ans et même plus, j'ai été absorbé par ces aspects de la croix qui traitent plutôt du péché et de sa puissance. Et puis, la révélation est venue tout d'un coup. J'étais comme une branche qui aurait été détachée. Maintenant, je comprends. Il fallait donc désormais être attaché à lui, à Jésus-Christ, greffé sur lui, sur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le tronc nourricier de notre vie. Nous sommes unis à lui, non seulement dans la conformité de sa mort, mais aussi dans la conformité de sa résurrection. Et j'ai vu pourquoi saint Paul, dans Romains chapitre 5, verset 10, presse ses correspondants de reconnaître que si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, dit-il, serons-nous sauvés, délivrés, jour après jour, de la domination du péché par sa vie de résurrection. Exactement comme nous ne devons pas séparer la mort de Christ pour le péché de la mort du croyant avec Christ au péché, nous ne devons pas séparer cette union dans sa mort de l'union dans sa vie de résurrection. La vie chrétienne n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, selon Galates chapitre 2, verset 20. Cette vie n'est pas quelque chose que nous puissions produire nous-mêmes, c'est vraiment vivre de la vie d'un autre. Dans le second chapitre aux Éphésiens, nous relevons trois expressions qui nous décrivent les différents aspects de cette nouvelle vie. Premièrement, la vie de résurrection au verset 5. Deuxièmement, la vie du trône, verset 6. Troisièmement, la vie productive, verset 10. J'ai bien dit dans le second chapitre aux Éphésiens. Considérons donc maintenant cette vie de résurrection. En quoi consiste-t-elle? L'apôtre Paul dit : vous étiez morts, mais Dieu vous a rendu à la vie. Autrefois, nous étions morts à tout ce qui concernait Dieu et uniquement sensibles aux pensées de la chair et aux convoitises de ce monde. Mais maintenant, par notre union avec sa mort et sa résurrection, nous recevons un nouvel entendement. Or nous avons la pensée de Christ, nous dit l'apôtre Paul. Comme nous l'avons remarqué, c'est la porte. C'est là donc la porte d'entrée de Romains chapitre 8. Au lieu d'être gouverné par une pensée charnelle, ce que la version seconde appelle l'affection de la chair, l'affection de la chair qui produit la mort. Nous avons maintenant une pensée, un entendement ou une affection spirituelle qui est la vie et la paix. En outre, quand nous apprenons qu'une sentence de mort a été rendue contre le corps de la chair, nous pouvons cesser de marcher selon les impulsions du corps. C'est ainsi que nous expérimentons l'action de l'esprit qui vivifie notre corps mortel. Et que personne nous estime, ou plutôt sous-estime, je le répète, que personne sous-estime l'œuvre vivifiante de Dieu. On la connaît bien trop peu. Sa vie de résurrection, on la connaît trop peu. Et la majorité des chrétiens en ont une bien pauvre expérience. Je me souviens d'avoir entendu, il y a bien des années, le révérend A. B. Simpson, qui était le fondateur de la grande entreprise missionnaire Christian and Missionary Alliance, raconter comment il avait appris à vivre de la vie d'un autre. Selon son propre témoignage, un jour qu'il cherchait la guérison pour mettre le point final à sa faiblesse physique, il comprit à ce moment même que c'était une union qu'il lui fallait, et cela afin de vivre continuellement par la force d'un autre. C'est grâce à cette union de vie, oui, c'est vraiment grâce à cette union de vie qu'il accomplit à lui seul une œuvre qui aurait exigé de nombreux ouvriers. Or, un jour, qu'il terminait une série de réunions, son ami le pasteur qui le recevait insista pour qu'il prît, par mesure de sagesse, quelques jours de repos après cet effort, au lieu d'aller directement à son prochain engagement. Quelques mois plus tard, quand il apprit ce que Dieu avait fait par le révérend Simpson lors de cette nouvelle rencontre, il lui demanda le secret de sa force. Sur quoi son interlocuteur lui dit simplement ceci : J'ai appris à vivre de la vie d'un autre. Et ce jour-là, je prenais une respiration profonde en me remettant en mémoire que c'était la vie de Jésus-Christ et sa force que j'absorbais. Que de gens qui aimeraient faire usage de cette formule, mais ils n'y parviendront jamais, car c'est pour lui Jésus-Christ et pour lui seul qu'elle doit être utilisée, cette vie-là. Il ne s'agit pas non plus de se reporter à quelques expériences du passé en disant « Je comprends ce que vous voulez dire parce que moi aussi j'ai été rempli de sa puissance il y a une vingtaine d'années. » Non, 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 cher ami, ce dont nous parlons ici, c'est d'une union permanente avec le Christ vivant. C'est continuellement qu'il demeure en nous et manifeste à travers nous sa puissante énergie, cette énergie de résurrection pour l'accomplissement de l'intention du Père. Cette union de vie ne sera efficace que si nous vivons pour lui. Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus, mais nous devons passer à autre chose et examiner maintenant la vie du trône. La vie du trône. Ce qu'il nous faut avant tout, c'est d'être au clair sur l'objectif et l'étendue de cette vie du trône. Nous sommes non seulement vivifiés par sa vie de résurrection, mais il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. C'est dans ce cadre, les textes en font foi, que cette vie jouit d'une autorité portée de fait sur les principautés et les puissances de ténèbres. Selon Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 22, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite, bien au-dessus, selon la version allemande, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et il a tout mis sous ses pieds. Oui, le mandat original que l'homme avait reçu de Dieu était de dominer sur le monde dans lequel il avait été placé. Après la chute, cette autorité échut à Satan. Et dès ce jour-là, il a été le prince de ce monde, sous l'empire duquel se trouve la race humaine tout entière. Mais au calvaire, Dieu soit béni, le Seigneur Jésus-Christ a finalement et pour toujours détruit la puissance de ce royaume de ténèbres. Et comme la puissance du péché a été détruite pour ceux qui sont en Christ, de même, la souveraineté perdue par Adam a été retrouvée en Christ. Nous sommes donc ainsi amenés encore une fois à à plus forte raison, dans Romains chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul déclare maintenant « À plus forte raison régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ?» Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui paraît à première vue. La puissance de Satan ne gît pas simplement dans l'amour du monde ou du péché ou dans quelques assauts directs contre notre pensée ou notre corps. Nous pouvons triompher de toutes ces choses tout en vivant encore sous l'aiguillon de la crainte, oui, la crainte de la mort. Voyez-vous, la véritable question est ici. Avons-nous regardé bien en face cette question de la mort? Car aussi longtemps que nous aimons encore notre vie, Saint Jean chapitre 12, verset 25, nous sommes encore les victimes de la dernière arme de l'ennemi qui est la mort. Là où la crainte de la mort subsiste, nous ne pouvons pas dire que nous avons vaincu l'ennemi, que nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Et je parle aussi pour moi. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Un exemple vous fera mieux comprendre à quoi nous voulons en venir. Un indigène parlait avec son missionnaire, son frère, chef de la tribu, venait d'être empoisonné parce qu'il était chrétien. Cette tribu païenne, qui ne comptait pas même une douzaine de croyants, avait appris par expérience que les chefs chrétiens n'avaient pas leur pareil comme chef. As-tu envisagé d'occuper la fonction de chef de la tribu ? Demanda le missionnaire. Oui, répondit l'homme, j'ai prié à ce sujet et je crois que je dois accepter cette responsabilité. Mais as-tu songé au risque que cela comporte pour toi? Ton frère a été empoisonné simplement parce qu'il était chrétien. Oui, oh oui, je sais tout cela. Je ne sais pas quel jour je serai empoisonné, mais quelle merveilleuse occasion de servir ces gens. Renonçant à tout ce qu'il avait, même à la vie, il accepta la position de chef. Ne pas aimer sa vie jusqu'à envisager la mort, c'était le moyen par lequel Dieu voulait réaliser par lui son dessein suprême. Ainsi qu'il advient au Seigneur Jésus-Christ, ainsi en est-il pour ceux qui s'identifient avec la vie du trône qui est la sienne. La mort a été dépouillée de son aiguillon, mais il y a davantage. Nous devons être prêts à donner notre vie pour les autres. C'est cela, la vie du trône, que le diable médite le pire, qu'importe la mort. Je dis que le diable médite tout ce qu'il y a de plus mauvais contre nous, qu'importe la mort. Virtuellement, nous y sommes du reste déjà dans la mort. Mais en réalité, c'est dans la vie que nous sommes, c'est-à-dire dans la vie du trône. Voyons enfin sa vie productive. C'est la vie qui crée. Nous pouvons être certains que nous ne ferons pas un seul pas sur la voie par excellence où nous sommes appelés à réaliser l'intention divine tant que la vie de résurrection de Christ et la vie du trône ne sont pas manifestées à travers nous dans un sens créateur. Qu'ils sont rares, et combien rares, les chrétiens qui ont découvert le plan de Dieu pour leur vie. Qu'ils sont rares, ceux qui se sont livrés sans réserve au dessein en vue duquel Dieu les a placés dans ce monde. Notre activité chrétienne n'est qu'un semblant d'œuvre de Dieu. Nous tenons réunion sur réunion et donnons de nombreux messages. Nous allons à l'église exécuter un programme routinier. Peut-être que nous aimons même prêcher. Peut-être nous suffit-il d'offrir ce que nous estimons nécessaire pour aider à son œuvre et nous donner un peu d'argent aux bonnes causes qui nous intéressent. Mais dans tout cela, nous perdons de vue le véritable problème. Tout service chrétien doit déboucher sur l'action, sur une action créatrice, pas une imitation. Écoutez, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, et de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Voilà donc ce qu'il vous a prédestiné à devenir en Jésus-Christ, un instrument grâce auquel il fera œuvre créatrice. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Nous l'avons déjà dit, cette vie-là ne peut être manifestée que si elle est vécue pour Dieu seul. Dès le commencement, Dieu a destiné chacun de ses fils à occuper une place pour laquelle personne d'autre n'est qualifié. Aussi sûrement que nous vivons de sa vie, nous reconnaîtrons que c'est une vie bien réglée que nous menons, une vie dont le plan a été établi par Dieu sans qu'il ait jugé bon de nous consulter. Quel est son plan pour vous? Comment sa vie va-t-elle au travers de vous se répandre tout alentour? Vous destine-t-il à aller prêcher son saint nom dans les lieux sombres de la terre? Ou bien à être fidèle dans l'accomplissement de quelques humbles tâches pour laquelle vous êtes spécialement équipé, afin que d'autres soient libérés pour une œuvre plus importante? Vous a-t-il peut-être destiné à former la jeunesse pour lui assurer un fondement solide pour entrer dans la vie? Ou bien à élever une famille pour qu'à son tour, la nouvelle génération soit préparée pour la tâche spéciale que le destin, ou plutôt le dessein de Dieu, lui destine, voyez-vous? Quel est-il son merveilleux plan pour vous, chers amis? Il y en a un, et si vous ne vous en inquiétez pas, c'est comme si vous contestiez à sa couronne ses droits sur votre vie. Ne l'oubliez pas. Dès le commencement, dès le tout commencement, vous avez été créé en Jésus-Christ pour une vie productive. Nous sommes maintenant prêts à examiner ce que cela signifie de vivre pour son intention suprême. Et nous allons voir tout ce que cela implique de marcher sur la voie céleste de la productivité spirituelle. Nous voici donc enfin parvenus à l'étude dans laquelle Dieu va chercher à nous dévoiler sa suprême intention qui est cachée dans la croix. Aussi longtemps que l'homme persiste à interpréter cette croix à la seule lumière des bienfaits qu'il en retire de la sécurité qu'elle lui assure, de la victoire qu'elle ajoute à la sécurité, c'est qu'il n'a pas encore compris, c'est qu'elle lui a échappé, cette rectification qui doit se produire quand l'homme se met à regarder la vie du point de vue paternel et à partager sa divine philosophie. Dès que le chrétien commence à interpréter la croix comme un principe que Dieu cherche à mettre en œuvre en lui, il la voit sous un jour tout nouveau, portant du fruit pour Dieu. C'est dire qu'au lieu de se contenter de s'approprier l'œuvre de la croix, il va maintenant s'engager sur le chemin de la croix. Quelle différence entre ces deux aspects de la croix? Nous commençons par apprendre à nous approprier l'œuvre de la croix. Et puis, à mesure que la croix se trouve enracinée dans la vie du chrétien, nous apprenons le chemin de la croix. L'appropriation met en évidence ce que l'homme reçoit. Le principe de la croix s'enracine au-dedans et met en évidence ce que le Père reçoit par ses fils. Pratiquement, les deux aspects ne sont pas nécessairement séparés, mais si le croyant avance résolument sur la voie céleste de la vie pour Dieu, chacun de ces deux aspects accomplit une œuvre distincte dans sa vie. Nous pouvons dire que nous nous engageons sur le chemin de la croix quand elle cesse d'être pour nous simplement extérieure et commence à déployer ses effets au-dedans. Alors, l'accent n'est plus sur ce que l'homme peut recevoir, il porte sur ce que Dieu peut enfin obtenir pour réaliser son intention suprême. Une fois que la chose nous est apparue, qu'elle nous a été révélée, nous nous rendons compte à quel point cette étape de notre marche a été négligée. C'est sans doute ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait à penser ou à la pensée quand il écrivait « C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, l'enseignement élémentaire, tendons à ce qui est parfait. » Hébreux, chapitre 6. L'apôtre Paul semble insister pour faire comprendre que c'est ce chemin de la croix auquel il avait voué sa vie qui explique à lui seul le succès et la fécondité de son ministère. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous. La mort au monde agit en nous. Et la vie de Jésus-Christ, elle agit en nous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. Comme cela paraît étrange à tous ceux qui cherchent toujours à obtenir et ne sont pas encore éveillés à l'idée de ce que Dieu pourrait obtenir, lui, par notre vie, par leur vie. L'objectif pour lequel l'apôtre Paul avait donné la sienne, bien sûr, qu'il ne peut ni le comprendre ni l'apprécier. L'importance de cette petite expression qui revient constamment sous sa plume et qu'on retrouve dans un contexte analogue leur a totalement échappé. C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tout le jour. Romains chapitre 8, verset 36. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. Auparavant, nous ne considérions les choses que pour nous-mêmes. Mais maintenant, à chaque pas que nous faisons sur cette voie par excellence, nous savons bien que cette œuvre de mort se fait en nous pour Jésus-Christ et à cause de lui. Quel privilège que le nôtre et quelle vocation! Quand Dieu nous a choisis, il a calculé que nous deviendrions des vases transparents permettant donc aux autres d'admirer le trésor céleste qu'ils contiennent, des instruments grâce auxquels ils pourraient manifester continuellement la mort du Seigneur Jésus-Christ. ce qui semble être notre mort est en réalité la mort de Jésus-Christ en nous. Et cette œuvre de mort devient un moyen de vie pour tous ceux auxquels elle est révélée. Alléluia. Chers amis, bon nombre d'enfants de Dieu abordent le chemin de la croix désemparés et hésitants, ne sachant rien de ce qui était dans la pensée de Dieu avant la chute, ni de la philosophie céleste, ils frémissent à l'idée que la mort puisse faire une œuvre continuelle en eux. Je ne suis pas préparé à prendre ce chemin-là, disait-il. Ce que je veux, moi, c'est une vie abondante et joyeuse, profiter ce que ce monde peut m'offrir, et pas la mort. Dans un institut où il avait été envoyé, et là, un étudiant en formation pour le ministère, il n'avait pas tardé à percer à jour l'esprit du christianisme très moderne et libéral. Depuis que j'ai quitté la maison, dit-il, j'ai commencé à voir très clair. Il y a tant de jeunes gens ici qui se sont apparemment consacrés au service de Dieu, mais ne sont disposés à aucun sacrifice. C'est une exigence qui ne paraît pas les avoir beaucoup retenus. Au début, j'en ai été profondément affecté. Et puis je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai été trop étroit quand j'ai choisi de renoncer à mes droits et d'accepter, comme on me l'avait enseigné, que la mort de Jésus-Christ à la croix fasse son œuvre en moi. Quelle extravagance on peut faire ici avec l'argent du Seigneur. Et j'ai été tenté de me mettre avec eux. Mais, gloire à Dieu, finalement, le Seigneur m'a fait voir combien ces vies-là sont stériles et vides. Ceux qui me paraissent régner comme des rois savent peu de choses en réalité du chemin de la véritable croix. Nous devons apprendre que la vie divine n'est pas du tout un article d'utilité. Quand on avance sur la voie céleste, en pleine jouissance de la vie d'un autre, on n'est pas pour autant sur un chemin facile, même si l'on est entouré de chrétiens. Car il y a des gens qui se trouvent sur une haute route d'un tout autre ordre, et c'est un grand choc de s'apercevoir qu'on est en train de suivre une toute autre voie, car la vie de Christ dont nous vivons, il n'y a qu'une manière de la vivre, c'est de la donner entièrement à Dieu et aux autres. Et dès l'instant où nous nous installons pour en tirer parti à des fins personnelles, le dispensateur de la vie se détourne carrément de nous. Ce n'est pas dans ce sens qu'elle fonctionne, la vie divine. Si nous persistons à interpréter le calvaire à la lumière du profit, même spirituel, que nous pouvons en tirer, c'est que nous ne sommes pas encore délivrés du monde. nous partageons peut-être les bienfaits de l'Évangile avec tous ceux qui sont perdus, nous efforçons de les gagner, mais nous les partageons à notre manière et en sauvegardant nos propres droits à disposer de nous-mêmes. Des multitudes de chrétiens sont prisonniers d'un système qui, fondé sur la sécurité et les récompenses, est entièrement de ce monde. Pour les délivrer de leur captivité, Dieu attend qu'ils aient complètement renoncé à leur propre voie. Il n'imposera sa voie à personne. C'est d'un cœur heureux et conscient de notre privilège que nous avons choisi de suivre la voie par excellence où toute notre vie est uniquement pour lui, pour notre Sauveur et Seigneur. Du point de vue de Dieu, la mort par la croix est chose faite une fois pour toutes. Je répète, du point de vue de Dieu, la mort par la croix est une chose faite une fois pour toutes. Mais il y a une distinction que nous devons toujours observer. Quand nous envisageons la mort de Christ pour nous et notre mort avec lui, nous employons le passé. J'ai été crucifié avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié. Considérez-vous comme mort. Et dans ces exemples, et dans beaucoup d'autres, saint Paul décrit notre union avec lui, avec le Seigneur. Nous sommes délivrés de la culpabilité du péché ainsi que de sa puissance en nous identifiant par la foi à l'œuvre de Christ pleinement accomplie sur la croix. Il y a là quelque chose d'irréversible. Nous fondons notre assurance sur un événement qui est uniquement du passé. Or, il y a des croyants qui confondent ces textes avec une autre déclaration de saint Paul et s'imaginent que nous sommes appelés à mourir tous les jours au péché. Non, non, non. Saint Paul affirme avec insistance que nous sommes morts au péché, un point c'est tout. Et dès le jour où nous avons eu conscience de l'œuvre rédemptrice de Christ et où nous nous la sommes appropriée par la foi, nous sommes morts au péché. Je répète, dès le jour où nous avons eu conscience de l'œuvre rédemptrice de Christ et où nous nous la sommes appropriée par la foi, nous sommes morts au péché. Et dans toute controverse avec Satan ou lorsque la chair nous assaille, nous devons retourner au premier jour où nous nous sommes appropriés notre mort avec Christ une fois pour toutes. Je répète, nous nous sommes appropriés notre mort avec Christ une fois pour toutes. Pour nous, cette affaire est liquidée. Nous avons fermé ce dossier. Et quand saint Paul dit « Je meurs chaque jour » selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31, version Darby, il n'entendait pas que nous devions mourir chaque jour au péché. C'est là, justement, qu'on risque de mélanger l'œuvre de la croix avec le chemin de la croix, ce qui n'est pas pareil. La première est une réalité appartenant au passé. Au passé sur laquelle nous nous fondons. Le second appartient au présent. Et c'est une réalité qui est notre part continuelle en Christ. Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, entre dans le monde sans péché. Il n'avait besoin de connaître que le chemin de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, disait-il, eh bien, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Saint Luc, chapitre 9, verset 23. Mais ce texte est souvent employé à tort pour laisser entendre qu'un homme qui s'imposerait une discipline sérieuse pourrait mettre à mort son vieux moi par un reniement quotidien. Ça, c'est ôter tout son sens à la grâce de Dieu. Il y a deux aspects de la vérité qui doivent être maintenus à leur place respective. Ils concernent deux hommes différents. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié à la race humaine. Il nous a étreints, pour ainsi dire, tous à la fois et nous a emportés dans la tombe. Et Dieu considère maintenant que nous sommes non seulement morts, mais ensevelis. Jésus-Christ fut le dernier Adam. Nous sommes maintenant ressuscités des morts et vivants dans le Seigneur Jésus-Christ, dont il est aussi parlé comme du second homme. Nous avons avec lui, nous constituons avec lui une nouvelle création, un homme, une femme nouvelle. Oui, complètement nouveau. Remarquez la différence. Le vieil homme, en Adam, il subit l'œuvre de la croix. Le nouvel homme en Christ, il est appelé à s'engager sur le chemin de la croix. Je répète, le vieil homme, en Adam, subit l'œuvre de la croix. Le nouvel homme en Jésus-Christ est appelé à s'engager sur le chemin de la croix. Nous faisons remonter notre mort au vieil Adam sur la base de l'œuvre de Christ maintenant achevée. C'est toujours au passé. Nous partageons maintenant, chaque jour, dans le nouvel homme, ce divin mode de vie qui produit en nous la mort, mais chez les autres la vie. Prenons une autre image. Nous nous livrons à Dieu afin de pouvoir, comme un grain de blé, être planté dans la mort afin de porter beaucoup de fruits. C'est à ce nouvel homme que saint Paul fait allusion quand il dit « portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. » Examinons maintenant de près quelques passages des Écritures saintes, souvent mises à tort en relation avec le vieil homme, alors qu'il s'applique au nouvel homme. C'est le nouvel homme qui, chez saint Paul, à cause de son ministère, se trouve à toute heure en péril. C'est pour cette raison que saint Paul écrit « Je meurs chaque jour, le contexte est très très clair. Il n'y a là absolument aucune référence à la mort au péché. L'apôtre Paul fait allusion au risque auquel il expose sa vie à cause de l'Évangile. Il y avait des drôles de risques, il y avait des bandits, il y avait des détrousseurs sur les chemins qui n'hésitaient pas à vous planter le couteau. Le passage est complété comme suit. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour. Ça n'a rien à faire avec le péché. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes sauvages, et vous pouvez lire donc dans Éphésiens, à Éphèse, il a eu des problèmes. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 30 à 32. Il faudrait, voyez-vous, une dose considérable d'imagination, écrit un commentateur, et une invraisemblable liberté d'exégèse pour appliquer cette phrase « Je meurs chaque jour à la mort au péché ». Elle ne se rapporte pas du tout au péché, mais elle se rapporte au sacrifice que saint Paul est prêt à faire de sa vie en faveur des autres quand les circonstances l'exigent. Vachmanni. Un autre passage qu'on interprète souvent comme s'il s'agissait de la mort au péché se trouve dans saint Jean, chapitre 12, verset 24. Jésus-Christ dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Un fermier ne met en terre que de la semence de bonne qualité, c'est-à-dire qui ait la vie en elle. Et d'ailleurs, la semence n'est pas mise en terre dans un but de purification, mais dans un but de production. Nous sommes entre ses mains comme de la semence. C'est donc bien ici aussi du chemin de la croix qu'il s'agit et non pas de la mort au péché. Pendant bien des années, j'ai été moi-même intrigué par le désir exprimé par saint Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Et bien des années avant cette lettre, je crois 6 ans avant cette lettre, il avait rendu ce témoignage « J'ai été crucifié avec Christ en lui, j'ai partagé sa crucifixion, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Messie, qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps, je le vis dans la foi par mon accord total, mon abandon et par ma confiance absolue au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2 verset 20 selon la version allemande. Pourquoi, après avoir rendu témoignage à une telle mort, écrire plus tard « Enfin, de le connaître et la puissance et sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Philippiens chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un est mort, n'est-il pas bien mort? Comment donc saint Paul pouvait-il désirer mourir de nouveau et continuer à mourir? Ce n'est qu'après avoir saisi la distinction que nous venons de faire que j'ai appris que saint Paul ne parlait plus ici de la mort du vieil homme. Il parle en tant que nouvel homme de Dieu. Son seul désir, c'est d'achever dans sa chair, pour employer ses propres termes, ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Je répète, son seul désir, c'est d'achever dans sa chair, pour employer ses propres termes, ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 24. En partageant plus profondément les souffrances de Christ, il se conformerait au chemin de la croix et pourrait ainsi connaître dans, on peut dire, dans une plus grande mesure, la puissance de sa résurrection. Nous aussi, chers amis, nous avons la même joie et le même privilège d'être dans le ministère identifié au Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9, se trouve un autre passage qui éclaire cette vérité. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères et sœurs, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Du bon côté de la croix, du côté résurrection, la conformité à sa mort signifie une faiblesse en nous-mêmes, faiblesse qui va s'approfondissant et non pas dans un sens accru de notre force. Notre désir naturel, c'est de nous sentir forts et capables d'entreprendre n'importe quoi. La faiblesse, par contre, est le chemin de la croix, car nous vivons par la vie et par la force d'un autre, c'est-à-dire de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Messie. Citons ici le témoignage de Madame Penn Lewis, qui nous fait part d'une crise qu'elle traversa après sa délivrance de l'empire du péché, tout en jouissant de l'œuvre de la croix qui représentait pour elle une joyeuse expérience. Elle commença à lire un ouvrage sur le chemin de la croix. En lisant ce livre, écrit-elle, « J'ai vu clairement le chemin de la croix et tout ce qu'il allait représenter. Ma première réaction a été de le refermer et de le bannir de ma présence. Et j'ai dit, non, 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 je ne veux pas prendre ce sentier-là, j'y perdrai toute mon expérience de la gloire. Mais voilà que le lendemain, j'ai repris le livre, et le Seigneur murmura il murmura avec un accent tellement doux. « Si tu veux, mon enfant, la vie profonde, voilà le chemin. Je réfléchis, faut-il vraiment le prendre ? Non, non, non. » Et de nouveau, j'ai mis le livre de côté. Le troisième jour, je le pris de nouveau. Encore une fois, le Seigneur parla. « Si tu veux du fruit, voilà le chemin. Je ne veux pas t'enlever la joie dont tu as conscience. Tu peux la garder si tu veux. Mais c'est ou bien la satisfaction pour toi-même, ou bien ce chemin-ci avec du fruit. Lequel veux-tu ? Alors par sa grâce, j'ai enfin compris et j'ai choisi le chemin de la fécondité. Et ce fut la fin de toute expérience sensible. Je marchais pendant un temps dans des ténèbres si complètes, les ténèbres de la foi, qu'il me semblait presque que Dieu avait cessé d'exister. Et de nouveau, par sa grâce, eh bien oui, me dis-je, je n'ai que ce qui a été convenu, je n'ai rien à dire. Et alors je partis faire quelques réunions. Et c'est alors que j'ai vraiment vu et constaté le fruit. À partir de cette heure-là, j'ai compris. Mon intelligence s'est éclairée que c'était mourir et non pas agir qui produisait le fruit spirituel. Le secret d'une vie féconde, c'est pour dire les choses telles qu'elles, déverser toute sa substance pour les autres et ne rien vouloir pour soi-même. S'abandonner absolument entre les mains de Dieu sans se soucier de ce qui vous arrive. Il suffit de lire les écrits de ceux qui avaient une profonde connaissance de la croix pour voir à quel point cette question de la croix une fois pour toutes et de la croix chaque jour a toujours paru un paradoxe. Le fameux évêque anglican, Moule, lui l'appelle l'inépuisable paradoxe. D'un côté, un total dépouillement de soi, et de l'autre côté, un besoin quotidien de crucifixion. La réponse est certainement, comme nous l'avons fait remarquer, dans la distinction à observer entre les deux phrases, l'œuvre de la croix, qui traite de la vie héritée de Adam, et le chemin de la croix que le nouvel homme emprunte avec joie pour sa marche journalière. Souvenez-vous de Jacob et de sa crise de minuit quand Dieu prononça une sentence de mort sur la force du vieux Jacob. Même lorsqu'il en sortit avec son nouveau nom, Israël, Dieu jugea bon qu'il fût marqué et il devint boiteux. Ce devait être pour lui un rappel constant qu'il ne devait plus marcher selon la vieille vie de la chair, mais dans la force de sa nouvelle vie, Israël. Ainsi, c'est en tant qu'homme nouveau en Christ que nous apprenons comme nous sommes faibles en nous-mêmes, mais que notre constante source de force, elle se trouve en lui, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi des rois. Amen. Chers amis, nous terminons ensemble par la prière. Par la prière. Prions donc ensemble. Seigneur, toi qui as été humble de cœur, ne permets pas que nous nous approchions de toi avec une orgueilleuse présomption et dans un sentiment de satisfaction de nous-mêmes, mais donne-nous une véritable humilité en nous faisant comprendre combien nous sommes coupables devant toi. Nous savons que celui qui s'élève sera abaissé, et les déclarations de la Sainte Parole divine ne nous permettent pas de conserver d'illusions à cet égard. Et cependant, sans cesse, nous nous élevons devant toi, grand Dieu, devant les hommes et bien plus encore en nous-mêmes. L'humilité, compagne inséparable d'une véritable sainteté, ne se manifeste pas seulement aux yeux du monde par des actes et des paroles, mais elle agit dans les profondeurs de l'âme tellement qu'il ne peut plus s'y trouver de vaine et de vaine confiance en soi-même, d'orgueil ou de bonne opinion de ses propres pensées et de ses vertus. Que notre amour pour Christ notre Sauveur accroisse encore cette humilité, sachant que nous avons été sauvés par grâce et que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu de miséricorde, daigne exaucer notre prière et nous donner de t'offrir avec humilité du pauvre péager et non avec l'orgueil du pharisien de ton évangile en ton saint nom. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain, Dieu voulant, la suite de ces études qui sont importantes et vont vous aider sur votre chemin avec le Seigneur, comme ils m'ont également aidé. Je peux vous le dire, c'est vrai. À demain donc, Dieu voulant. Au revoir.